Voici le cinquième épisode de ma série sur l'année 1979. Au menu, l'élection surprise de Margaret Thatcher, la grande enquête sur la sexualité féminine, la flambée du prix des carburants, déjà, et le méga concert de Jean-Michel Jarre à la Concorde.
1979, Ondelat raconte sur Europe 1.
Au printemps 1979, l'Angleterre est frappée de plein fouet par la crise économique et des élections générales anticipées sont organisées. Le Premier ministre travailliste de gauche, donc James Callaghan, se retrouve en ballotage défavorable face au Parti conservateur et à son leader, sa leader, Margaret Thatcher. Ça fait 4 ans qu'elle est à la tête du parti de droite. Et la suite se passe à la Chambre des communes, l'équivalent de notre Assemblée nationale. Le vote final pour choisir le Premier ministre a lieu le 2 mai 1979.
Pour le vote, hier soir à 22h, conservateurs et travaillistes avaient rameuté le banc et l'arrière-banc de leurs troupes. Un conservateur qui pouvait à peine marcher est venu voter, avec un travailliste aux trois quarts aveugle guidé par un huissier. Des parlementaires en smoking blanc ou noir, échappés d'une soirée, sont venus le temps du scrutin. Il y a un député irlandais qui est venu voter, qui n'avait jamais mis les pieds aux communes, et puis aussi Jeremy Thorpe qui était là, l'ex-leader des libéraux, inculpé de complicité de meurtre. Pas de député ivre, la buvette du Parlement a été fermée pour cause de grève, pas de taxi en panne, pas d'ascenseur bloqué entre deux étages avec des parlementaires, comme cela s'est produit jadis.
Et cette folle soirée tient toutes ses promesses, jusqu'à l'annonce du vainqueur.
À 22h18, le premier scrutateur se fait à grand-peine un chemin au milieu des députés. On se méprend sur son signe de la main. Les travaillistes crient victoire. Madame Thatcher blémit, elle retient son souffle. Les cris de joie changent de banc, la victoire change de camp. Les conservateurs ont gagné. Whitelaw passe son bras sur les épaules de Margaret Thatcher. C'est elle qui a gagné.
Margaret Thatcher devient la toute première femme en Europe à accéder à un poste de chef du gouvernement. Elle a 53 ans et elle a bien préparé sa victoire.
Une campagne à l'américaine orchestrée par la meilleure firme de relations publiques britannique, un budget de près de 3 milliards de centimes, des cours de diction et de maintien, tel est en partie le secret de la victoire ce matin de Madame Thatcher. La première femme à devenir Premier ministre dans un pays occidental a bénéficié aussi de l'usure du Parti travailliste trop longtemps au pouvoir en Grande-Bretagne, 11 ans ces 15 dernières années, alors que les Britanniques sont attachés à l'alternance. Le succès de Madame Thatcher est dû encore aux promesses de changement qu'elle a faites, notamment la réduction des impôts.
Margaret Thatcher est précédée d'une solide réputation. On l'appelle déjà Miss Maggie ou la Dame de Fer, c'est selon. Pour enrayer le déclin du pays, elle a un programme basé sur l'austérité.
Maggie préconise la fin de la politique des salaires, le retour à la libre négociation, la limitation des piquets de grève, le vote des grèves à bulletin secret, l'interdiction du monopole syndical d'embauche et enfin la suppression des prestations sociales pour les familles des grévistes. Là, c'est peut-être un peu trop, monsieur Callaghan a beau jeu de s'indigner. Comment vous supprimez des allocations familiales à un gréviste, on ne les supprime pas à la famille d'un condamné. Le leader travailliste estime que le libéralisme à tout craint de Madame Thatcher va déchaîner les syndicats. Hier soir, son dernier message télévisé annonçait une Angleterre aux mains des conservateurs, en proie aux grèves et à l'inflation. Le pays, dit Callaghan, sera rongé comme par un cancer. Les syndicalistes sont plus crus. Leur leader, David Bassnett, lance « Madame Thatcher veut émasculer les syndicats ».
La Dame de Fer se met très vite à dos toute la classe ouvrière britannique. Et le mouvement punk, qui est à son apogée au Royaume-Uni. Alors que Margaret Thatcher accède au pouvoir, le groupe The Clash sort son troisième album, London Calling. Des textes énervés qui décrivent un monde au bord de l'asphyxie et qui s'en prennent aux idées thatchériennes. London Calling devient l'un des albums phares de la fin des années 70. C'était The Clash avec London Calling en 1979.
Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
En 1979, on s'intéresse à la sexualité féminine. C'est une revue mensuelle, F Magazine, qui a l'idée de se pencher sur le sujet. Pour Françoise Rodon-Salman, la journaliste en charge de l'enquête, il s'agit d'une grande première.
N'a jamais été faite cette enquête. Les femmes ayant justement une histoire qui leur appartient avaient besoin de s'exprimer sur un sujet qui leur appartient. Car la sexualité féminine n'est pas une sexualité en réaction, ou dirais-je, en comparaison à la sexualité masculine, c'est une histoire en soi. Et ça, c'est la première révélation. Il y a une histoire de la sexualité des féminines, ce qu'on a bien compris, qui n'est pas par opposition au sexe masculin, mais oui, qui est une histoire en soi. Et ça, les femmes n'avaient jamais pu s'exprimer sur ce sujet, puisque vous savez qu'il n'y a jamais eu d'enquête de cet ordre en France.
Dans le numéro du mois de février, le magazine a publié un questionnaire. 150 questions pour tout connaître des comportements et des préférences des femmes en matière de sexe. Elles sont 13 000 à y avoir répondu. Et au moment de la publication des résultats, Europe numéro 1 y consacre une partie de son antenne dans l'émission Europe Midi.
Nous avons posé des questions sur la satisfaction que les femmes éprouvaient ou n'éprouvaient pas dans leur vie sexuelle, sous la forme de questions toutes simples. Votre vie sexuelle vous satisfait-elle ou non? Eh bien là, les résultats sont intéressants puisque 51% des femmes qui ont répondu ont déclaré avoir une vie sexuelle très, très satisfaisante, 39% pas satisfaisante. La répartition se fait donc pour une grande moitié de satisfaite et une petite moitié d'insatisfaite.
Et parmi celles qui se disent satisfaites, elles le sont plusieurs fois par semaine.
Nous sommes aperçus qu'une très très grande proportion de femmes qui ont répondu ont une vie sexuelle très intense, puisque 47% d'entre elles ont répondu avoir eu des rapports sexuels plusieurs fois par semaine et s'en montrer extrêmement satisfaites.
Mais le questionnaire ne se contente pas de savoir si les femmes sont satisfaites ou insatisfaites, mais plutôt pourquoi elles le sont.
Des choses prévisibles, telles que le manque de temps, la fatigue, les mauvaises conditions de logement, mais d'autres plus précises et peut-être d'une certaine manière plus nouvelles, en tout cas dans la manière de les dire, l'inattention du partenaire, son incapacité à comprendre à la fois la psychologie et la physiologie des femmes concernées, et toute une certaine difficulté à établir des relations de tendresse, de douceur, qui sont souhaitées par la quasi-totalité des femmes et qui ne trouvent pas toujours un écho chez leur partenaire.
Et en parlant de partenaire, en l'occurrence masculin, l'enquête met à jour une véritable problématique. Le désir masculin serait prioritaire sur le désir féminin.
Il y a tout de même un point très important qui nous a beaucoup frappé, qui traduit un reste, et pas seulement un reste malheureusement, de soumission des femmes sur le plan sexuel. Cette réalité apparaît à travers un certain nombre de questions que nous avons posées dans F Magazine à nos lectrices en leur demandant s'il leur arrivait d'accepter des rapports sexuels dont elles n'avaient pas envie. Et nous nous sommes aperçus que pour presque 20% d'entre elles, cela arrivait encore couramment. Qu'elles étaient encore très nombreuses, elles sont encore très nombreuses, à dire qu'il est très 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 difficile de refuser un rapport sexuel à un partenaire, surtout quand il s'agit d'un partenaire régulier, un mari. 57% trouvent cela très difficile, 39% seulement trouvent cela facile. Et dernier chiffre significatif, toujours qui va dans le même sens, 57% des femmes disent avoir souvent des rapports sexuels avec leur partenaire, seulement pour lui faire plaisir.
Si cette enquête est une grande première, on peut quand même déplorer que les femmes interviewées n'aient pas de profil très varié.
L'enquête a été faite, je crois, auprès de 13 000 de vos lectrices. Est-ce que vous pouvez dire que vos lectrices sont quand même représentatives de l'ensemble des femmes françaises ?
Absolument pas. Je ne pourrais pas le dire, il faut être tout à fait honnête. Le lectorat de F Magazine est un lectorat qui a un niveau d'instruction plus élevé que la moyenne des Françaises.
Alors, représentative ou pas, ce genre d'enquête ainsi relayée a quand même un mérite en cette année 1979, celui de libérer la parole sur un sujet très souvent tabou.
Quand on lit tous leurs témoignages, il y a eu plus de 3000 témoignages, de 10 pages quelquefois, même plus, on se retrouve soi-même dans ce qu'elles ont écrit et je crois que c'est ce que toutes les femmes peuvent éprouver quand elles lisent les résultats de notre enquête. Il n'y a pas de normes en sexualité, il n'y a que des différences, des histoires personnelles, mais au moins on se retrouve partiellement dans les histoires des unes et des autres.
Europe 1, on de la traconte, l'année 1979.
C'était Rod Stewart avec « Dias Think I'm Sexy ». Pour cette chanson, le chanteur britannique s'est inspiré de deux titres et mal lui en a pris puisqu'il a été condamné pour plagiat de l'un d'entre eux. Il a ensuite reversé tous les droits à l'UNICEF.
Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
En 1979, déjà, le prix de l'essence grimpe en flèche. En cause, la révolution iranienne et le conflit entre l'Iran et l'Irak. Le 28 mars 1979, le ministre de l'Industrie André Giraud est l'invité de la matinale d'Europe numéro 1 pour en parler.
Je disais que pour vous, pour le gouvernement, la facture allait être gonflée, là, dans l'état présent, de 6 milliards par rapport à l'année dernière, et que pour nous, le plein allait coûter en plus... le prix d'un paquet de cigarettes. Alors ça permet de tenir, mais ça permet de tenir jusque-à quand ?
Je ne veux pas cacher aux Français que la situation n'est pas rassurante pour l'avenir. Et effectivement, nous devons être, la considérer avec beaucoup de sérieux. Nous devons en particulier nous attacher à économiser l'énergie. C'est un souci fondamental du gouvernement. Nous avons mis en place des mesures très importantes dans ce sens. Nous allons dépenser 600 millions de francs rien que pour favoriser les économies d'énergie. Nous allons cet été en particulier faire appel au civisme des Français auxquels on peut demander beaucoup plus que ce que l'on ne croit généralement. C'est ce que nous pouvons faire. Nous développons notre programme d'énergie nucléaire. Bref, nous devons absolument considérer que l'avenir est redoutable et que nous devons nous préparer à y faire face.
Redoutable, c'est le mot. Surtout si le prix des carburants continue d'augmenter comme il le fait et à cette vitesse.
L'essence à 3,05 francs, est-ce que cela est cher? Il y a 15 ans, le prix du litre de super était de 1,03 francs. En dépassant prochainement les 3 francs, il aura donc été multiplié par 3. Dans le même temps, le prix de la baguette de pain est passé de 44 centimes à 1,50 francs, soit une multiplication par 3,5, ce qui est supérieur à la hausse du prix de l'essence. Autre exemple, la côte de mouton est passée de 16,50 francs en 1964 à 48 francs aujourd'hui, soit pour elle aussi quasiment un triplement de son prix. Bien sûr, cette comparaison n'est pas scientifiquement rigoureuse. Elle montre pourtant que les hausses du prix du pétrole n'ont rien d'aberrante. Elles suivent l'inflation générale.
Tout augmente et les Français doivent s'y faire. Mais pour ce qui est de l'essence, il faut en plus que la dépense soit assortie d'efforts. Les efforts anti-gaspi. L'Agence pour les économies d'énergie a d'ailleurs listé des conseils pour apprendre à rouler plus économiquement. Son directeur, Jean Poulitte, a lancé un personnage pour l'occasion. Son nom, Monsieur Gaspi, un petit bonhomme rose avec un gros ventre et une tête prolongée d'un entonnoir.
Il suffit d'appliquer les conseils de la conduite économique, les conseils de la chasse au gaspi. L'on peut rappeler très simplement, il y en a trois qui sont très importants. Conduire régulièrement, en souplesse, ne pas accélérer et freiner brutalement. Passer le rapport de vitesse supérieure, chercher la quatrième vitesse ou la cinquième dès que vous avez un régime moteur suffisant et sur autoroute, lever le pied. Avec ça, vous pouvez économiser facilement 15% de carburant.
Est-ce que vous pensez qu'il existe un seuil de tolérance à l'augmentation du carburant, un prix au litre au-delà duquel les Français, même douloureusement, utiliseront franchement moins leur voiture?
Nous avons des renseignements, nous avons posé ces questions à un échantillon d'automobilistes. En fait, il faudrait arriver à 4,50 francs ou 5 francs le litre pour que le taux d'utilisation de la voiture change de façon significative.
Cette opération visant à freiner la consommation de pétrole et à faire baisser la facture prend la forme d'un jeu auquel tous les automobilistes français sont appelés à participer.
On leur donne une carte de score personnelle qu'ils ont à remplir. Pour la remplir, on leur demande de faire des pleins successifs. Ils doivent d'abord faire le plein zéro quand ils commencent la chasse. Puis ils parcourent un certain nombre de kilomètres, de l'ordre de 300 ou 350 kilomètres, et ils font un premier plein. Et ils indiquent à ce moment-là le kilométrage parcouru, le nombre de litres qu'ils ont ajouté, et en faisant la division, ils obtiennent la consommation moyenne aux 100 kilomètres. Et d'un plein à l'autre, ils peuvent voir s'ils ont fait des progrès.
Mais qu'est-ce qui va contrôler la consommation inscrite par l'automobiliste?
Il n'est pas question de contrôler la consommation. On donne à chacun le moyen de participer activement à la conduite économique. C'est à chacun de se contrôler soi-même.
Et alors, il y aura un palmarès, un premier, un deuxième, un dernier?
Pas exactement. On demande à chacun de mettre un autocollant sur sa lunette arrière de la voiture. Des reporters pourront poser des questions aux automobilistes qui le voudront bien. Et on leur demandera s'ils ont pratiqué les conseils de conduite économique et quels sont les résultats qu'ils ont obtenus. Il y aura des enveloppes surprises avec des lots qui peuvent être importants, qui récompenseront, qui sont surtout des équipements d'économie d'énergie à bord des voitures, par exemple des indicateurs électroniques de consommation qui vous donnent la consommation instantanée.
Et qui coûtent 700 francs, je crois.
700, 750 francs et qui sont vraiment très, très utiles.
En 1979, le personnage de Monsieur Gaspi est partout. Tous les Français le connaissent. Mais quant à suivre ses conseils, c'est une autre paire de manches.
Oui, j'ai entendu parler, oui.
Gaspi, j'essaie de le chasser et de le combattre, oui.
Ah, j'ai entendu parler, oui.
Qu'est-ce que vous faites pour suivre ses conseils?
Pas grand-chose. J'ai autre chose à penser.
Bien, franchement parler, je suis un petit peu indifférent à tout ça.
Est-ce que vous connaissez Gaspi?
Oui.
Est-ce que vous faites quelque chose?
Non, je ne fais rien.
Une majorité des automobilistes ne semble pas décidée à jouer le jeu. Pourtant, le défi est de taille. Il faudrait réussir à économiser 300 millions de tonnes de pétrole d'ici 6 ans. Alors, nombreux sont ceux qui planchent sur le sujet. Et figurez-vous qu'en juin 79, un ingénieur qui s'appelle Jean-Albert Grégoire propose une alternative, une voiture électrique.
J'ai fait dans ma vie deux voitures électriques et je dis que la voiture électrique peut être utilisée, mais pas en remplacement de la voiture à essence actuelle. C'est-à-dire que c'est une voiture qui n'a pas sa rusticité. Elle demande un entretien. Ce qui veut dire que ou la voiture électrique sera employée sous forme de flotte comme dans des taxis, ou alors le particulier pourra s'en servir à condition de garer dans un garage spécialisé où pendant la nuit, on rechargera son automobile et on entretiendra ses batteries.
Mais est-ce qu'il y a une possibilité sur l'essence synthétique ?
Monsieur Adolf Hitler a tenu pendant la dernière guerre avec de l'essence synthétique. En 1944, l'Allemagne a produit 5 millions de tonnes d'essence synthétique.
Mais à quel prix ?
Cher monsieur, le prix ne comptera pas dans quelques années. Quand vous avez le baril de pétrole qui vaut déjà 35 dollars à Rotterdam, il n'y aura pas question de prix.
Et pour les jusqu'au boutistes, il y a aussi la solution sans voiture. Fermé, les fameux jusqu'au boutistes organisent un contre-salon de l'auto, pendant lequel ils mettent à l'honneur le piéton, tout simplement.
Ils sont plus nombreux que les autos, les motos et les vélos, et ce sont eux qui sont pourtant les plus exposés aussi bien en ville que sur les routes. On en tient rarement compte, ou du moins pas suffisamment. Il arrive même qu'on les écrase, les bouscule, les renverse et les blesse. Ils, ce sont les piétons. Ces derniers se sont constitués en association pour faire respecter leurs droits, droit de cité sur la chaussée, en ville et en dehors, droit à la vie donc, et rappel de principes élémentaires à la prudence pour ceux et celles qui les menacent. SOS aussi au pouvoir public pour que les plans de circulation mettent à l'abri les piétons, des plans qu'ils aimeraient pouvoir étudier avant de se les voir imposer.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1979.
Ce soir, on dansait le dernier slow, comme si l'air du temps se trompait de tempo.
Et si ce soir, on dansait le dernier slow, un peu de tendresse au milieu du discours.
C'était pourtant bien de danser très doux et de se fondre au point d'oublier tout autour de nous. C'était pourtant bon, et moi j'étais pour finir sur les violons pour commencer l'amour.
C'est Joe Dassin avec le dernier slow, chanson italienne à l'origine, qui a été adaptée en français par le duo de choc Delanoë-Lemel.
On de la traconte, Christophe On de Latte.
En décembre 1979, pour la première fois dans l'histoire de la pub, on s'apprête à récompenser les meilleurs films publicitaires de l'année. La cérémonie se déroule au Théâtre de l'Empire, à Paris. Et dans le jury, il y a des personnalités comme Jean-Louis Trintignant ou encore le dessinateur Ciné.
Il y a des cinéastes qui font des films de 3 heures, il y en a qui font des films de 30 secondes. Les premiers célèbres gagnent des statuettes nommées Oscar ou César dans des festivals. Grâce à la Régie française de presse, les seconds ont gagné hier leur Minerve pour ces films que nous voyons avant ou après le journal. Ils se donnent parfois bien du mal pour tourner 30 secondes. Ainsi, Jacques Arnaud, producteur lauréat, est allé en Mauritanie pour une montre.
Pour aller tourner ce film, l'équipe a dû tourner sous la protection de l'armée mauritanienne. Et en plus, ça ne s'est pas passé tout seul parce qu'une partie des plans ont été tournés avec un 1000 mm, c'est-à-dire un objectif très long qui fait un mètre de long. Et quand l'opérateur a sorti le 1000 mm, l'armée de Mauritanie a cru que c'était un bazooka et qu'on voulait tirer sur le train.
Et la publicité dont parle le producteur, eh bien la voici.
Sur le rail, une Kelton, la montre qui résiste à tout. Face à elle, 4 locomotives, 200 wagons de 100 tonnes, un train de 2 km 600. Le plus grand train du monde. Une fois de plus, Kelton va faire la preuve de son exceptionnelle robustesse. Kelton, des montres qui résistent à tout. Presque à tout. Kelton, des montres qui résistent presque à tout.
Mais la cérémonie décerne des prix dans plusieurs catégories. Et c'est ainsi qu'une jeune comédienne de 19 ans, qui s'appelle Sonia Volraux, reçoit le prix d'interprétation féminine pour son rôle de mangeuse de chamallow.
Vous connaissez chamallow ? Chamallow ! La mère, elle me mange comme ça. C'est bon, ce chamallow ? Très doux. Très gourmand. Mon petit frère, comme un cow-boy, il dit « Ce soir, c'est le chamallow. » Et moi, comme ça. En souplesse. Chamallow, les bons gros bonbons tendres.
Chamallow, les gros bonbons tendres.
Cette superbe statue cuivrée vous a coûté combien de bonbons doux, charmants et écœurants ?
400 à peu près, une vingtaine de paquets.
En combien d'heures ?
En une après-midi, enfin 4-5 heures.
Un rôle et un prix qui peut-être expliqueront la suite de sa carrière, puisque elle deviendra sociétaire de la Comédie française. Le prix d'interprétation masculine, lui, est attribué en cette année 79, ex aequo, aux deux acteurs de la pub pour les PTT, Thierry Lhermitte et Christian Clavier.
On est très content, on est très étonné en même temps, parce que le texte était très difficile.
Et la cravate ? Faut toute la route là pour manœuvrer ton yo-yo ?
Eh oh, doucement, Armand ! Fallait rester derrière un guichet si t'es pas capable de piloter ta caisse.
Oui, alors figure-toi que du courrier, il y en a de plus en plus. C'est avec des caisses comme ça qu'on tient les délais.
Qu'est-ce que tu crois qu'on fait au télécom ? Du tricot ? En 5 ans, on a doublé les abonnements. Et je te parle pas des satellites.
Et j'espère qu'ils vont pas tomber en panne, tes satellites. Hein ? Non, parce qu'il te faudrait une sacrée rallonge. Et toc !
Et en tout cas, toi, si tu tombes en panne, tu peux toujours reprendre ton vélo ? Et blanc ?
Oui, alors en attendant, tu dégages ta girafe parce qu'il faut que j'y aille. Hein ? Merci, tu me fais plaisir.
Entre la poste et les télécommunications, il y a toujours eu une certaine émulation. Tant mieux. Tout le monde en profite. PTT, les hommes qui relient les hommes.
En cette année 79, même si elle ne se voit pas décerner de prix, certaines publicités plaisent plus que d'autres. Je vous propose un florilège des publicités en vogue cette année-là. Il y a celle pour Badois, façon Cafconce.
Notre gourmandise, c'est l'eau de Badois.
Attablons la boîte. Car elle est exquise.
Badois est légère, elle fait mieux passer la crème pâtissière,
les os, le gibier.
Oh, les petites bulles de Badois. Oh, le petit goût de Badois. Oh, le plaisir, c'est Badois.
L'eau de Badois facilite la digestion des gens bien portants.
Et puis en 79, il y a cette pub pour l'huile de tournesol avec dans le rôle-titre le professeur Tournesol, le personnage d'Hergé.
Professeur, il fait beau.
Tournesol, pas du tout, je veux ce gigot. Je le préparerai avec mon huile fruit dehors 100% tournesol, car elle m'aide à mieux équilibrer mon alimentation.
Vous équilibrez votre alimentation à vue d'œil ?
Fauteuil, pas du tout, j'ai bon pied, bon oeil, fruit d'or et pur tournesol. Alors elle m'aide à mieux équilibrer mon alimentation, elle est légère, légère.
Fruit d'or vous aide à mieux équilibrer votre alimentation.
Si certaines publicités utilisent des personnages célèbres pour faire la promotion d'un produit, d'autres n'hésitent pas à s'appuyer sur une musique pour bien marquer les esprits. Et c'est ce que fait Nesquik en 79.
Alors, on vous a volé votre Nesquik ? Je sais qui a fait le coup. Nesquik, on en a une énorme envie.
Cette musique est l'œuvre d'un jeune surdoué, le musicien Jacques. En 1979, la créativité paie et les agences de publicité augmentent leurs revenus de 15 à 16% par rapport à l'année précédente. N'en déplaise à Coluche, qui régale les Français avec son sketch intitulé « La publicité ».
La publicité à télévision, ça s'adresse uniquement aux débiles mentaux. Je le dis parce que s'il y en a parmi vous, c'est pour eux, les autres circulez, il n'y a rien à voir. Allez hop! Mais il y en a beaucoup qui restent. Hein. C'est sympa, on se sent moins seul. Bon. Alors, la publicité à télévision, par exemple, vous avez... Surtout, c'est pour les lessives. Je sais pas, on doit en manger parce qu'ils nous en vendent. Hein. Ouh là là. Ah, par exemple, vous avez... Madame, je vois que vous avez acheté un baril d'Ariel. Si je vous le reprends, ils en donnent deux où il n'y a rien d'écrit. Oh, ben non. Vous voyez, faut vraiment être con pour pas prendre deux barils à la place d'un. Eh, vous imaginez la bonne femme qui dirait, ben merci vieux, salut, hein. Allez hop là. Alors, revenez, ça va pas là, c'est pas ça là.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1979.
Tu la voyais pas comme ça ta vie. Pas d'attaché caisse quand t'étais petit. Ton corps enfermé, costume crétin. T'imaginais pas, je sais bien. Moi aussi, j'en ai rêvé des rêves, tant pis. Tu la voyais grande et c'est une toute petite vie. Tu la voyais pas comme ça l'histoire. Toi t'étais tempête et rocher noir. Mais qui t'a cassé ta boule de cristal? Cassé tes envies rendues banales. Tes moches en moustache, en laide sandales. Tes cloches en bancal, petit caporal de centre commercial. Tu la voyais pas comme ça frérot. Doucement ta vie t'a mis KO. T'avais 8 ans quand tu te voyais. Et ce rêve là on l'a tous fait. Dentelle première et premier chapeau.
C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau.
Tambour binaire et premier sabot.
C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau.
Dansant Quimper ou Landerneau.
C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau.
Soufflant tonnerre dans du roseau.
C'est pas toi qui es
dans le bagage de l'ambiway.
C'était Alain Souchon et son Bagade de l'Ambiway, hommage aux musiciens de la Marine nationale.
Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
En cette année 1979, la mairie de Paris a l'intention de mettre les petits plats dans les grands pour le 14 juillet. Chirac veut un concert géant, place de la Concorde. Avec un seul et unique artiste, ce sera Jean-Michel Jarre. Jarre est le nouveau roi de la musique électronique. Et donc, deux jours avant l'événement, il accepte d'en dire un peu plus sur son show.
Enfin, Oxygène est un disque qui est sorti maintenant il y a à peu près un an et demi, avec une autre œuvre que j'ai faite qui s'appelle Equinox. Et ce sont ces deux musiques-là qui vont servir de base, si je puis dire, à cette sorte de concert audiovisuel que la mairie de Paris m'a fait l'honneur de me demander pour la soirée du 14 juillet. Alors, je dis concert audiovisuel, c'est sur audiovisuel pour deux raisons. La première, c'est que c'est retransmis en Eurovision par des moyens télévisuels. Et d'autre part, aussi audiovisuel sur la place de la Concorde même, puisque le lieu, c'est la place de la Concorde. Parce que la musique sera accompagnée sur le plan visuel de canons géants d'images qui vont projeter donc des images sur le ministère de la Marine et l'hôtel Crillon, qui se trouve, pour les gens qui ne sont pas parisiens, de part et d'autre de la rue Royale.
Ça, face à au Palais Bourbon, de l'autre côté.
Exactement. Qui sont réalisés par le groupe Hold Up. Et un feu d'artifice qui sera le...
Ils vont pas vous confisquer tout ça,
non ? Non. J'espère non. Mais un feu d'artifice, donc, qui sera le final traditionnel de la soirée du 14 juillet, et qui sera aussi le final du concert, tiré du Jardin des Tuileries. Il y a des tas de choses, des tas de surprises qui sont aménagées. Moi-même, je j'interpréterai la musique en direct au pied de l'obélisque.
Musique, projection vidéo, feu d'artifice, le spectacle est très ambitieux. Et pour cette création inédite, le titre est tout trouvé. Paris, bleu, blanc, rouge. À quelques heures du début des festivités, 350 techniciens s'affairent place de la Concorde.
La place de la Concorde cet après-midi. Balai de nacelles, enchevêtrement de câbles, installation de projecteurs, premier réglage de Paris, bleu, blanc, rouge. Des haut-parleurs qui développeront 90 kW, une batterie de 35 synthétiseurs, un son en quadriphonie que l'on pourra apprécier jusqu'à l'étoile, de quoi faire frémir demain soir la célèbre Concorde et les 500 000 Parisiens qu'elle attend demain soir.
500 000 spectateurs attendus du jamais vu. Et le jour J, donc, la place de la Concorde commence à se remplir et la foule continue à descendre lentement les Champs-Élysées pour bientôt envahir toute la place. Et ceux qui ne peuvent pas être présents à la Concorde, eh bien, s'apprêtent à suivre l'événement devant leur télé, en France et partout dans le monde, car le spectacle est relayé en Eurovision. Au centre de la Concorde, dos à l'obélisque, Jean-Michel Jarre patiente derrière un mur de synthétiseurs analogiques et d'orgues électroniques et de tables de mixage. Il est un peu plus de 22 heures lorsque résonnent les premières notes des synthétiseurs. Pendant plus d'une heure, le musicien enchaîne les titres connus et les improvisations à la façon d'un DJ, tout ça jusqu'au bouquet final. À la mairie de Paris, on n'en revient pas. 1 million de personnes seraient venues assister à ce spectacle. Et il se murmure même que Mick Jagger s'est glissé dans la foule. Mais célèbre ou non, tous ceux qui étaient présents sont unanimes. Le 14 juillet 79 est la soirée des superlatifs.
Je trouvais ça merveilleux, vraiment splendide. Hein. C'était vraiment exceptionnel. Hein.
Vous attendiez à quelque chose de pareil ?
Oui, bien sûr, oui. Jean-Michel Jarre a vraiment une musique formidable. Oui.
Et pour vous, ça symbolise vraiment un 14 juillet ?
Oui, vraiment, oui. Oui. C'est vraiment formidable.
Et qu'avez-vous discerné au sein des images que vous avez pu voir ?
J'ai discerné la mer, ça représentait la mer, enfin l'histoire, etc.
Formidable, c'était vraiment très bien.
La musique, elle était très très belle. Moi, ça m'a beaucoup plu.
Et le feu d'artifice également ?
Ah, très 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 bien. Vraiment, je crois que c'est la première fois qu'on le voit aussi bien, qu'on en voit un d'aussi bien. On s'est assis par terre. Oui, même avec ma robe, je me suis assise par terre pour attendre.
Vous n'avez pas eu
debout.
Vous n'avez pas eu trop de mal pour arriver jusque-là ?
Non, ça a été très bien.
On peut repartir,
oui, c'est cela.
Au total, le concert a été vu par plus de 100 millions de personnes et ce record d'affluence est validé le soir même par le Guinness Book.
We'll be right back.
Extrait d'Equinox, tube de Jean-Michel Jarre, interprété Place de la Concorde à Paris le 14 juillet 1979. 79, c'est fini. Merci à Guillaume Vasseau, François Desmoulins, Julien Pichenet, Claire Dutronc, Élodie Bouty et Valérie Inizan pour la préparation de cette émission. Ainsi se termine notre série en 5 épisodes consacrée à l'année 1979. Vous trouverez sur votre application de podcast d'autres séries consacrées à d'autres années.
Retrouvez On de la Traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.